Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous sommes toujours dans ces explications d'après les Pères de l'Église de l'Évangile selon saint Matthieu. Nous en sommes maintenant au début du chapitre 5, sur le polycopier, sous le fichier qui contient les textes des pères pour les cinq premiers chapitres. Non, nous en sommes à la page 33. Ce chapitre 5 est un chapitre très important. Les commentaires seront assez longs chez les pères parce que c'est le chapitre qui va donner une partie du discours sur la montagne de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur va rassembler les foules et là il va expliquer les béatitudes. Donc vraiment le chemin du ciel. Ces béatitudes sont, je dirais, une claque donnée au monde moderne. On peut inverser les béatitudes et le monde moderne va suivre complètement le contraire des béatitudes. Notre Seigneur Jésus-Christ dit « Bienheureux les pauvres ». Le monde moderne dit « Bienheureux les riches, malheur aux pauvres ». Notre Seigneur Jésus-Christ dit « Bienheureux ceux qui sont doux ». Le monde moderne va vous dire « Bienheureux les violents ». Notre Seigneur dit « Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Et le monde moderne va vous dire « Jamais souffrir, jamais mourir, jamais pleurer ». Notre Seigneur dit « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». Et le monde moderne va dire « Bienheureux ceux qui accaparent, bienheureux ceux qui volent, bienheureux qui s'enrichissent avec les biens des autres. Notre Seigneur dit, bienheureux les miséricordieux, et le monde moderne va dire, bienheureux ceux qui ont le cœur sec. Notre Seigneur dit, bienheureux ceux qui ont le cœur pur, et le monde moderne va répondre, bienheureux les impurs, bienheureux ceux qui ont le cœur plein de luxure. Notre Seigneur dit « Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Et le monde moderne va dire exactement le contraire. « Bienheureux ceux qui font la guerre. Bienheureux les violents. » Notre Seigneur va dire « Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Et le monde moderne va répondre « Bienheureux encore une fois ceux qui sont jamais persécutés. » Ceux qui ont qui peuvent jouir de la vie, jouir des bienfaits de la vie, jouir des concupiscences de la chair, concupiscences des yeux et de l'orgueil. Notre Seigneur dit, bienheureux serez-vous lorsqu'on vous maudira, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et le monde au contraire, le monde moderne va vous dire exactement l'inverse de ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Bienheureux ceux qui n'ont jamais de problème, bienheureux ceux qui ne sont jamais critiqués, bienheureux ceux qui ne sont jamais méprisés, bienheureux ceux qui méprisent les autres. Il est évident que ces béatitudes ont une importance absolument fondamentale et les pères de l'Église l'ont bien fait remarquer. Alors je vais, en suivant les pères, encore une fois, expliquer ces béatitudes. Encore une fois, en essayant de je dirais, de me soumettre à l'esprit des pères de l'Église. Quand on explique l'Écriture sainte, c'est toujours la même règle. Surtout ne pas suivre sa volonté propre, surtout ne pas suivre son interprétation propre. Sinon, on tombe dans le libre examen protestant. Ce libre examen protestant qui a complètement, totalement envahi le monde moderne maintenant et l'Église de Vatican II. Nous sommes catholiques, nous n'avons rien à voir avec l'Église de Vatican II, ses pompes et ses œuvres. Alors voyons le texte, la page 33 sur le polycopier. Jésus, voyant les foules, monta sur une montagne. Et lorsqu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et ouvrant sa bouche, il les enseignait en disant, « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Remarque d'abord que notre Seigneur Jésus-Christ monte sur une montagne. Ensuite, on remarque qu'il s'assoit. Et ce sont des détails que le monde moderne ne voit pas. On lit ça, il monta sur une montagne, il s'assoit. Quand il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. J'ai l'impression que ça n'a aucune importance, ce sont des détails sans importance. En fait, ça en a, parce qu'il y a un sens mystique derrière. Par exemple, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ s'assoit, il s'assoit comme homme. Donc c'est une figure de son incarnation. C'est une figure de son incarnation, c'est-à-dire c'est une figure de l'union dans sa personne divine. Il est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Une union entre la nature humaine et la nature divine. Il est parfaitement Dieu, il est parfaitement homme. Et pour bien montrer qu'il est homme, il s'assoit. Car s'il ne s'était pas incarné, le genre humain n'aurait pas pu s'approcher de lui. Cet esprit... Le mot esprit, c'est un mot qui disent les pères qui est synonyme de vent, qui ne sait qu'on dit aussi que des orgueilleux sont enflés, qui sont gonflés par le vent, pleins d'eux-mêmes. C'est pour cela, donc, disent les pères, qu'il faut entendre ici par pauvres d'esprit les humbles, qui craignent Dieu et qui n'ont pas cet esprit qui enfle. Donc le terreau sur lequel toutes les vertus vont pouvoir pousser, c'est le terreau de l'humilité. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ parle, commence ses béatitudes, par la pauvreté d'esprit. La pauvreté d'esprit, c'est l'humilité. L'humilité, c'est-à-dire le fait que je reconnaisse que tout ce qui est bon en moi vient de Dieu et tout ce qui est mauvais en moi vient de mon propre fond. Les pères font remarquer, c'est au début du polycopier, à la page 33, que notre Seigneur avait trois lieux particuliers de retraite, la barque, la montagne, le désert. Donc il va prêcher aux foules, mais avant de prêcher aux foules, il va d'abord chercher, puiser dans la méditation, dans la contemplation solitaire, dans la solitude du désert, il va puiser justement toutes les forces dont il avait besoin pour prêcher. C'est ce que doivent faire tous les prédicateurs. Malheur à un prêtre qui prêche sans avoir prié d'abord. L'Église demande par exemple au prêtre, avant de célébrer la Sainte Messe, avant de prêcher le dimanche, et bien évidemment de savoir passer un temps devant le Saint-Sacrement pour se remplir du bon Dieu et se vider de soi-même. Se remplir du bon Dieu, se vider de soi-même, ça correspond à béatitude bienheureux des pauvres en esprit. Le pauvre en esprit, c'est celui qui est pauvre dans son humanité et riche dans sa divinité. C'est-à-dire celui qui est pauvre dans sa volonté propre et qui remplace sa volonté propre par la volonté divine en lui et qui est capable de dire « Mon Dieu, que votre volonté soit faite ». Et celui qui est capable de se vider ainsi, eh bien, il va se remplir. C'est pour cela que la béatitude continue en disant « Le royaume des cieux est à eux ». Donc si je me vide de moi-même et je me remplis de notre Seigneur Jésus-Christ, j'appartiendrai au royaume des cieux. Les pères font remarquer que notre Seigneur allait se retirer dans une de ces trois retraites, la barque, la montagne, le désert, lorsqu'il était accablé par la foule. Alors, si on le voit d'abord avec les pères, la signification de cette montagne. Qu'est-ce que signifie « monta sur une montagne » Notre Seigneur Jésus-Christ, voyant les foules, monta sur une montagne. D'abord, il y a une prophétie d'Ésaïe, monter sur le sommet de la montagne qu'il a réalisé. Et puis cette montagne représente, disent les pères, le sommet des vertus spirituelles. Si vous restez sur la terre, parlez des choses de la terre. Si vous voulez monter au ciel, Si vous voulez parler du ciel, élevez-vous au ciel. Élevez-vous jusqu'au ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ monte sur une montagne parce qu'il va parler des choses célestes. Pour nous apprendre qu'il faut habiter le sommet des vertus spirituelles pour être digne d'enseigner et d'écouter les oracles de la justice de Dieu. Car si l'on reste habituellement dans la vallée, on ne peut parler du haut de la montagne. Vous voyez donc, notre Seigneur Jésus-Christ monte justement pour nous aider à monter avec lui. Il appelle les foules à lui. Quitter la vallée du monde, quitter la vallée des choses mondaines, des choses terrestres, et monter vers le bon Dieu en montant sur la montagne. Il y a d'autres sens mystiques qui sont donnés par les pères. Je les ai inscrits ici sur le premier paragraphe, dans le premier paragraphe du chapitre 5. Notre Seigneur monte sur la montagne pour nous avertir que tout homme qui veut pénétrer les mystères de la vérité doit monter sur une montagne, sur cette montagne qui est l'Église, dont le prophète a dit, c'est David qui parle, la montagne de Dieu est une montagne fertile. Il monte sur la montagne parce que c'est des hauteurs de la majesté qu'il occupe avec son Père qui nous impose des célestes enseignements de la vie chrétienne. Vous voyez ce qu'il nous cherche ? Mon Dieu nous cherche à nous faire comprendre plusieurs choses. D'abord que sans l'humilité, on ne peut recevoir aucun des fruits de la béatitude. Il faut d'abord l'humilité. Pourquoi ? Parce que le grand obstacle à la conversion des cœurs, c'est l'orgueil. Donc, une fois qu'on s'est installé dans l'humilité, à ce moment-là, on peut ouvrir les portes de notre âme. Notre Seigneur Jésus-Christ peut parler et sa vertu, et ses vertus vont pénétrer dans notre âme. Et une fois que notre Seigneur Jésus-Christ a mis l'humilité dans notre âme, à ce moment-là, il peut y verser justement son enseignement. C'est la deuxième chose qu'il faut bien comprendre. L'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il va manifester, qu'il va expliciter dans les béatitudes, c'est évidemment le contraire, la contradiction même de l'esprit du monde. J'ai expliqué au début de ce commentaire d'aujourd'hui. N'oublions pas que le monde, c'est quoi ? Saint Jean nous le dit. Tout ce qui est dans le monde, c'est la concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, concupiscence de l'orgueil. Saint Jean ne dit pas une partie du monde est constituée par les trois concupiscences. Non, il dit tout ce qui est dans le monde est concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et orgueil de la vie. Eh bien, cette pauvreté spirituelle, cette pauvreté en esprit, cet esprit d'humilité à laquelle notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle tous, va évidemment s'opposer à la concupiscence des yeux. Concupiscence des yeux qui est la concupiscence par laquelle nous sommes attirés un peu comme des mouches sont attirées par une lumière, nous sommes attirés par les choses de ce monde. Nous en voulons chaque jour de nouvelles. Nous voulons toujours nous attacher aux dernières nouveautés du monde. Eh bien, la concupiscence des yeux, l'esprit de lucre, si vous voulez, va être détruit justement, vont être détruites par l'humilité. Et c'est ça qui nous donne cette récompense extraordinaire, à savoir le royaume des cieux. Vous voyez, cette pauvreté d'esprit, c'est pas simplement une pauvreté physique, je dirais une pauvreté dans l'argent. Non, c'est beaucoup plus que ça, c'est une pauvreté de cœur. C'est-à-dire avoir l'esprit dégagé pour que l'esprit puisse monter vers Dieu. L'image qu'on utilise toujours, c'est l'image d'un oiseau qui a un fil à la patte. Il ne peut pas voler, il ne peut pas aller très haut parce qu'il a un fil à la patte qui l'empêche de s'élever vers le ciel. Eh bien, nous, au contraire, nous devons pouvoir voler vers le bon Dieu. Et si nous sommes alourdis par les choses de ce monde, si nos poches sont pleines des choses de ce monde, eh bien, notre Seigneur, l'âme qui est alourdie par les choses de ce monde, qui est engluée dans les choses de ce monde, sera incapable de monter vers le bon Dieu. Et donc, il faut d'abord se détacher. Pas simplement de l'argent, mais se détacher des choses du monde, de l'esprit du monde. Comment résumer l'esprit du monde ? À laquelle s'oppose justement la première concupiscence. Ben, l'esprit du monde, c'est inscrit sur tous les frontons de nos mairies, c'est inscrit sur toutes nos pièces de monnaie. Liberté, égalité, fraternité. C'est ça l'esprit du monde. Liberté, le droit de faire ce que je veux. Égalité, aucune différence entre les âmes, aucune différence entre les religions, toutes les religions mènent au même Dieu. Et fraternité, dans le sens que nous avons tous un père commun qui s'appelle le démon. C'est ça l'esprit de la Révolution française. Et il faut comprendre ces choses-là, surtout en France. Souvent, les gens font la remarque, monsieur l'abbé, vous êtes terriblement anti-républicain. Je ne suis pas anti-républicain. Mon héros politique était un président de la République, Garcia Moreno, président de la République d'Équateur, qui est mort en 1875, assassiné par les francs-maçons en Amérique du Sud. Je ne suis pas contre la République en tant que telle. L'Église n'a jamais été contre la République en tant que telle. Il y a eu des républiques de tout temps qui étaient parfaitement acceptées par l'Église. Je pense aux républiques italiennes, République suisse par exemple. Chaque canton suisse est plus ou moins une espèce de petite république. L'Église n'a jamais été contre ça. Mais l'Église a toujours été contre le laïcisme. La particularité de la République française, la République française n'est pas une république comme les autres républiques. La République française est une république qui est d'abord et avant tout laïque, contre Dieu. Le refus catégorique de se soumettre à la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle un catholique ne peut pas accepter cette république laïque, anticatholique, alors qu'il est lui-même catholique. Alors, il faut méditer là-dessus. Bienheureux les pauvres en esprit. Est-ce que je suis détaché des choses de ce monde? Il est évident que les gens qui m'écoutent sont tous des gens qui vivent dans le monde. Un père de famille qui vit dans le monde, qui a une épouse, qui a des enfants, mais il doit travailler dur pour pouvoir nourrir ses enfants. Donc, il doit travailler dans le monde. Le bon Dieu ne vous demande pas, encore une fois, de tout abandonner, d'aller vivre sur une cave, dans une cave ou au sommet d'un arbre. Parce que le bon Dieu vous demande. Le bon Dieu vous demande de nourrir vos enfants, c'est absolument évident. Mais le bon Dieu vous demande de nourrir vos enfants tout en formant leur âme, leur esprit, leur intelligence pour qu'ils se détachent des choses de ce monde. Il y avait des saints qui ont été des hommes particulièrement riches. Prenez par exemple Lazare, Saint Lazare. La tradition nous dit que la famille de Lazare, Marthe, Sainte Marie-Madeleine, Saint Lazare, la famille de Lazare était une famille de gens qui avaient des biens. Mais ce que l'Église demande, c'est même aux gens qui ont des biens, il y a eu des rois qui ont été canonisés par l'Église et qui, dans la majesté royale, avaient une certaine richesse, évidemment, parce qu'ils représentaient justement cette royauté royale, cette royauté, pardon, cette royauté de cette autorité politique qui était la royauté. Mais on peut avoir des choses de ce monde, c'est qu'on peut avoir de l'argent, on doit en avoir quand on a des charges dont il faut s'occuper, c'est absolument évident, mais sans s'attacher aux choses de ce monde. Avoir de l'argent, oui, c'est nécessaire pour payer les factures, c'est nécessaire pour s'occuper de notre époux, notre épouse, nos enfants, mais sans s'attacher aux choses de ce monde. C'est ça, la pauvreté en esprit. Vivre dans le monde sans s'attacher aux choses de ce monde. Alors, les pères de l'Église vont expliciter ces choses-là, c'est le troisième paragraphe de la page 33, en montrant les différents degrés d'humilité, différents degrés de pauvreté. Donc, ils disent qu'il y a trois degrés de pauvreté d'esprit ou d'humilité. On voit très bien, vous voyez, dans la phrase même des pères, qu'ils équiparent, ils associent la pauvreté d'esprit et l'humilité. Pour eux, c'est la même chose. Donc, quand notre Seigneur Jésus-Christ dit bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. En fait, on pourrait traduire bienheureux les humbles, car le royaume des cieux est à eux. Et ils vont expliquer qu'il y a trois, les pères vont expliquer qu'il y a trois étapes, trois degrés de pauvreté spirituelle ou d'humilité. Le premier degré consiste à purifier l'esprit de tout souffle de vanité, de présomption, méprisant toutes les pompes de ce monde. Le premier degré, c'est se protéger de l'attraction, si vous voulez, qu'on a vers les choses de ce monde. Deuxième degré, évite de considérer les choses comme m'appartenant, me dépouillant totalement de mes opinions, volontés et désirs propres. Mon Dieu, que votre volonté soit faite. Le monde moderne, si vous voulez, s'il fallait le définir, c'est un monde qui dit d'abord je veux, je veux, je veux. Les enfants sont comme ça. Les petits, quand ils sont mal éduqués, au début, avant qu'ils soient éduqués, ils disent toujours je veux ça. Et la maman doit expliquer, c'est pas je veux ça, d'abord c'est je voudrais ça, et avant on demande, s'il vous plaît maman, puis-je avoir telle chose? Mais pas je veux, c'est pas vous qui commandez, c'est pas l'enfant qui commande. Donc la deuxième étape, le deuxième degré de cet esprit de pauvreté, c'est l'esprit qui consiste à dire,
qui consiste plutôt à se dépouiller de sa volonté propre. On voit très bien ça dans le protestantisme. Le protestantisme, c'est l'adoration de la volonté propre. Le catholicisme, c'est le mépris de la volonté propre et l'introduction dans notre âme de la volonté divine. Troisième acte de pauvreté consiste à me vider de moi-même, me rendant aussi pauvre que possible, comme si je n'avais plus rien à moi, me contentant de ce que Dieu me donne librement. Et encore une fois, il faut savoir interpréter ces textes des pères. Le bon Dieu ne vous demande pas de tirer le diable par la queue, comme on dit vulgairement toute la journée. Vous avez le droit d'avoir des économies, vous avez le droit d'avoir une certaine aisance financière pour pouvoir payer les factures. Vous avez le droit de mettre de l'argent de côté pour pouvoir justement préserver des jours meilleurs dans le futur. Mais ce qu'il faut, vous voyez, c'est se confier davantage dans la providence du bon Dieu. Le bon Dieu a promis qu'on ne serait jamais tenté au-delà de nos forces. Il a promis aussi que, puisque les oiseaux du ciel sont nourris par le bon Dieu, puisque les fleurs des champs ont un vêtement que le roi Salomon lui-même n'avait pas, eh bien le bon Dieu va s'occuper de nos âmes, c'est absolument évident. Mais il faut que je méprise les choses de ce monde, il faut que je me dépouille totalement de mes opinions et mes désirs propres, et il faut que je m'évite de moi-même, me rendant aussi pauvre que possible. Alors, le bon Dieu pourra appliquer la béatitude bienheureux des pauvres en esprit, et si j'ai cette pauvreté d'esprit, le royaume des cieux sera à moi. Donc, vous avez le paragraphe suivant, qui est le quatrième paragraphe de la page 33 dans le polycopier. Pourquoi le Christ assigne-t-il à la pauvreté spirituelle la première place parmi les béatitudes évangéliques? C'est que la pauvreté détruit toute forme de convoitise, racine et source de tous les maux. La pauvreté détruit l'orgueil. Et l'orgueil prend la place de l'humilité. Si j'ai une âme orgueilleuse, il n'y aura pas d'humilité dans mon âme. Or, l'humilité est le terreau de toutes les vertus. Donc, si j'ai de l'orgueil, j'ai aucun terreau pour recevoir les vertus, pour implanter les vertus. Et les vertus fuiront mon âme. La pauvreté détruit toute forme de convoitise, racine et source de tous les maux. Saint Grégoire nous dit qu'il faut être nu pour lutter contre le démon, car si l'homme a des vêtements sur lui, le démon a quelque chose par quoi le saisir et le précipiter par terre. Ces vêtements représentent donc les biens terrestres. Ne désirons donc rien en ce monde pour ne pas nous délecter de ces choses futiles que le monde utilise pour nous faire tomber. Alors évidemment, pour certaines personnes, Dieu demande plus. La pauvreté en esprit peut mener à la pauvreté réelle. Et détacher non seulement des biens de ce monde en esprit, mais aussi en fait. Le bon Dieu ne demande pas ça à ceux qui ont en charge de famille, c'est absolument évident. Parfois on trouve un petit peu cette tendance chez certains traditionnalistes qui se disent « Oh, le bon Dieu pourvoira, donc je fais rien et j'attends la fin du monde tranquillement ». En faisant la sieste. Non, ce n'est pas ce que vous demande le bon Dieu. Donc, le bon Dieu ne demande pas à une personne qui est en charge de famille de suivre une pauvreté réelle. C'est absolument, absolument impossible. Il y a une petite note ici sur l'ordre franciscain. Selon saint François, la pauvreté évangélique est la fondation de l'ordre franciscain sur laquelle tout l'ordre repose, lui donnant sa force. Si cette pauvreté disparaissait, l'ordre serait entièrement retourné. Si les frères se détournaient de la pauvreté, le monde se détournerait d'eux. Mais s'ils embrassent d'âme pauvreté, le monde les nourrira parce qu'ils sont envoyés pour le salut du monde. C'est un contrat entre le monde et les frères. S'ils donnent au monde un bon exemple, le monde sera tenu de leur donner la nourriture nécessaire. S'ils cessent de donner le bon exemple, le monde retirera la main qui donne. Ça, c'est parfaitement exact. Ceci dit, une fois qu'un chef de famille a fait tout ce qu'il a pu pour avoir un travail rémunérateur qui lui permet de soutenir ses enfants, son épouse, payer les factures en fin de mois ou en début de mois, eh bien, le bon Dieu va compléter ce qui manque, c'est absolument évident. Il ne va pas compléter dans l'abondance. On le voit très bien, le bon Dieu n'aime pas l'abondance. L'abondance des choses n'est pas bonne. J'ai souvent donné cet exemple dans l'ordre franciscain, au temps de Saint François, il était interdit de faire des réserves. Donc quand les moines franciscains mendiaient pour se nourrir, et ce qu'il y avait en trop était tout de suite donné aux pauvres. Il était interdit à l'ordre franciscain, par Saint François lui-même d'ailleurs, de faire des réserves pour le lendemain. Les moines ne pouvaient pas dire, bon, on a reçu beaucoup aujourd'hui en don, tant mieux, comme ça on aura quelque chose à manger pour demain, donc on garde tout ça pour demain. Non, on donnait tout aux pauvres. À chaque jour suffit sa peine. Vous voyez, donc cette béatitude, bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, est vraiment la fondation même de toute la vie spirituelle. N'oublions pas que c'est ici on touche au sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est en quelque sorte la colonne vertébrale de toute la foi catholique. Dieu va nous expliquer, voilà ce qu'il faut faire pour appartenir à mon peuple. Voilà ce qu'il faut faire pour se préparer à rentrer dans le royaume des cieux qui vous est destiné. Alors, il faut, je pense que les parents qui ont compris ces choses-là fassent attention, justement, bien encore une fois, qu'ils doivent avoir les choses matérielles dont ils ont besoin pour pouvoir s'occuper décemment de leur famille. Il faut en même temps absolument se couper de cet esprit de richesse du monde moderne. Vous n'êtes pas obligé d'être constamment entouré de richesses. Il faut un minimum d'esprit de simplicité dans les familles chrétiennes pour que les enfants puissent conserver la foi. Si on est entouré de trop de richesses, c'est trop difficile de sauver son âme. Je ne dis pas que c'est impossible pour un milliardaire de sauver son âme, mais c'est quand même extrêmement difficile. Il n'y a pas de patron des milliardaires dans l'Église. Il n'y a pas de milliardaires qui ont sauvé leurs âmes, je pense pas. Et donc il faut cet esprit de pauvreté, cet esprit de simplicité, qui est un esprit d'humilité. Et donc arriver dans la, je dirais, dans la façon de vivre, à se détacher un peu des biens de ce monde. Ne pas avoir toujours une nourriture extrêmement fine, ne pas avoir les choses matérielles, les meilleures qui puissent se trouver, avoir une certaine pauvreté dans la façon de vivre, une certaine simplicité. Et cette simplicité donnera l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté monte, si vous voulez, les âmes qui sont dans cet esprit de pauvreté, monte ces âmes vers le royaume des cieux. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ conclut en disant, les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Voyons maintenant la deuxième béatitude. Bienheureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Alors voyons un petit peu, c'est comprendre un peu ce que veut dire cette douceur. Cette douceur de notre Seigneur Jésus-Christ touche à la charité. Les pères vont expliquer que l'homme ne peut être doux sans être d'abord pauvre en esprit. C'est pour cela que la béatitude sur la douceur arrive après la béatitude sur la pauvreté d'esprit. Bienheureux les pauvres en esprit, parce que les pauvres en esprit pourront être doux. Donc bienheureux ceux qui sont doux, parce qu'ils sont d'abord pauvres. L'homme ne peut être doux sans être d'abord pauvre en esprit. Il ne peut y avoir une mer calme, disent les pères, sans que les vents arrêtent de souffler. Un feu ne peut être éteint tant qu'on lui ôte pas le matériel qui l'alimente. Ainsi, l'esprit ne sera pas doux et calme tant qu'on n'élimine pas les choses qui l'excitent et l'enflamment. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Donc la pauvreté d'esprit entraînera cette douceur. Et cette douceur s'oppose à la violence du monde moderne. Vous voyez, le monde moderne court après les richesses. Contre ces richesses exagérées, Dieu dit, bienheureux les pauvres en esprit. Le monde moderne va courir après la possession de ces richesses, attrapées par violence, par rapine, par vol. Et notre Seigneur Jésus-Christ répond, bienheureux ceux qui sont doux. La douceur est une manifestation extérieure de la vertu de charité. Donc les hommes doux sont des hommes qui vont être capables, disent les pères, de triompher du mal par le bien. Alors les pères de l'Église se sont posé la question de savoir quelle est cette terre à laquelle notre Seigneur Jésus-Christ fait allusion. La deuxième béatitude dit « Bienheureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre ». De quelle terre s'agit-il? Bien, cette terre, selon l'opinion de quelques pères, est la terre des morts. Tant qu'elle reste dans l'état actuel, parce qu'elle est assujettie à la vanité, mais lorsqu'elle sera délivrée de la corruption, elle deviendra la terre des vivants, et les mortels la recevront comme un héritage libre des atteintes de la mort. Donc cette terre des vivants, C'est le paradis, en fait. Le ciel que doivent habiter les saints est appelé terre des vivants. Donc la terre des vivants représente le ciel, représente le paradis. C'est la terre dans laquelle les âmes chrétiennes doivent être enracinées. Le ciel que doivent habiter les saints est appelé terre des vivants, en ce sens que c'est le ciel par rapport à la région inférieure, la terre comparativement au ciel supérieur. Pour d'autres, il n'y a pas de, il n'y a pas de consensus de tous les pères. Chaque père a des, peut avoir des idées différentes sur le sujet. Ça nous permet d'ouvrir le champ de notre méditation. D'autres pères prétendent que cette terre, dont parle notre Seigneur, est notre corps. Tant qu'il est soumis à la mort, c'est la terre des morts, mais il sera la terre des vivants. On voit très bien que là, les pères ouvrent un champ pour notre méditation. On peut utiliser les textes de cette père de l'Église pour justement nous habituer à méditer. Voilà ce que disent les pères. D'autres pères prétendent donc que cette terre est notre corps, tant qu'il est soumis à la mort, c'est la terre des morts, mais il sera la terre des vivants, lorsqu'il deviendra semblable au corps glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que notre âme représente la terre, une terre qui est un terreau sur lequel, je vous l'ai déjà dit, sur lequel l'humilité va venir pousser. Si l'humilité pousse dans ce terreau, à ce moment-là, notre âme va passer de terrestre à devenir à céleste, d'une terre terrestre à une terre céleste, du monde d'ici-bas au monde à venir. Et ce monde à venir est représenté par le mot terre. Donc la terre, bienheureux ceux qui sont doux, car les personnes dont posséderont la terre, c'est la terre des vivants. La terre des vivants, c'est ceux qui ont l'âme spirituellement vivante. La terre des vivants, c'est le ciel. Le Christ donc mêle, disent les pères, page 34, deuxième paragraphe de la page 34. Le Christ mêle ici les promesses temporelles aux promesses spirituelles. Celui qui fait profession de douceur passe aux yeux du monde pour perdre tout ce qu'il possède. Jésus-Christ lui promet donc le contraire en l'assurant que celui qui est doux possède en sûreté ce qui lui appartient, tandis que celui qui est arrogant perd bien souvent et son âme et l'héritage de ses pères. Or le Sauveur emprunte ici pour les mêler à son discours ces paroles du roi prophète, « Ceux qui sont doux auront la terre en héritage ». Donc cette terre en héritage, c'est l'héritage éternel. L'héritage éternel, c'est quoi? C'est le ciel, c'est le paradis. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, il parle de cette douceur justement pour s'opposer à la violence du monde moderne. Regardez un petit peu les titres des journaux. Aujourd'hui, c'est que de la violence partout dans le monde entier. Guerre sur guerre, violence sur violence, partout. Et évidemment, cette violence empêche notre Seigneur Jésus-Christ de rentrer dans les âmes. Une âme qui est violente est une âme qui ne peut pas être en paix. Donc il n'y a pas de pauvreté d'esprit dans une âme qui est violente. La pauvreté d'esprit qui manque justement, la violence qui est possédée par cette âme, eh bien cette violence va empêcher notre Seigneur Jésus-Christ de s'approcher de cette âme. Donc demandons au bon Dieu, pas simplement la pauvreté d'esprit, c'est-à-dire d'être détaché des biens de ce monde, de l'esprit du monde, mais aussi d'avoir cette douceur qui permet la manifestation de la charité. C'est rare d'avoir des hommes doux. On arrive à avoir cette douceur beaucoup plus facilement chez les femmes, parce que la douceur est une vertu naturelle de ce côté-là, parfaitement féminine. Mais quand il y a la douceur chez les hommes, ça ouvre les cœurs. J'avais remarqué cette douceur extraordinaire chez Mgr Lefebvre. Première fois que j'ai rencontré Mgr Lefebvre, c'était à Lausanne, en Suisse, autour des années 1971-72, au congrès de Lausanne, la cité catholique, qui était en train de devenir l'office à l'époque déjà, malheureusement. Et là où j'ai rencontré pour la première fois Mgr Lefebvre, je ne l'avais jamais vu auparavant. Et j'ai été impressionné par cette douceur, cette charité qui émanait de tout ce qu'il faisait, de tout ce qu'il touchait, qui émanait aussi de son regard. Et cette incroyable, incroyable charité naturelle qui montait dans la charité surnaturelle. Donc celui qui n'a pas cette douceur, mais qui a la violence qui l'habite, eh bien, va se couper des âmes. Les âmes vont spontanément vers les gens doux. Et au contraire, les hommes se séparent des gens qui sont violents. Donc il faut demander au bon Dieu d'avoir cette douceur même dans nos explications, dans la façon dont on explique certaines choses, dans la façon dont on cherche à convertir les gens, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur. Malheur à ceux qui ont cette violence constante. Et c'est pour cela que je regrette beaucoup que les célébacantistes perdent tellement de temps sur les réseaux sociaux, hein, à s'écharper mutuellement. Les réseaux sociaux sont vraiment un moyen justement de pratiquer cet esprit du monde, un esprit de violence. On injurie le voisin sous couvert d'anonymat, on est protégé par l'anonymat et on passe sa vie à injurier les voisins. Non, ce n'est pas l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est doux avec les âmes pour justement les amener au prince de la douceur qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Cette phrase, après les 2 mois que je suis doux et humble de cœur. Eh bien, c'est cette douceur de notre Seigneur Jésus-Christ qui se manifeste ici dans cette béatitude. Bienheureux les doux, parce qu'ils posséderont la terre. C'est évidemment à mettre en parallèle avec la phrase de notre Seigneur, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Eh bien, il faut que nous puissions dire cette phrase dans notre apostolat. Que ce soit un père de famille, une mère de famille, un jeune qui veut vivre comme catholique, il faut qu'il puisse dire « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais se battre. Notre Seigneur Jésus-Christ parlait par exemple aussi à des soldats, beaucoup de soldats écoutaient notre Seigneur Jésus-Christ. Même aux soldats, notre Seigneur disait « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Il ne prêchait pas le pacifisme, bien sûr que non, mais il prêchait cette douceur. Quand on parlait avec notre Seigneur Jésus-Christ, on avait envie d'être bon, c'est évident. Et on le voit avec ses serviteurs. Encore une fois, c'est vraiment la chose qui m'a le plus frappé chez Mgr Lefebvre. Il y a cette extraordinaire douceur. Combien de fois, les séminaristes que nous étions au séminaire d'école, au début des cônes, autour des années 75, par là, eh bien, on était parfois très découragés par les difficultés, les tentations qu'il y avait au séminaire, tentation de partir, tentation de reprendre la vie dans le monde. Et puis parfois on allait frapper à la porte de Mgr Lefebvre, c'est à une époque où il était souvent là au séminaire avec nous, on allait frapper à sa porte complètement découragé. Et simplement, quand on ouvrait la porte, Mgr Lefebvre nous demandait de rentrer, et quand on s'asseyait et qu'on voyait ce sourire extraordinaire qui était sur la bouche de Mgr Lefebvre, cette douceur extraordinaire, eh bien ça nous calmait tout de suite. Et on ressortait rassénéré. Comme ce... L'exemple que je donne souvent, ce protestant qui vient voir le Saint-Curé d'Ars, et quand il rentre chez lui, c'est un Anglais, il rentre chez lui en Angleterre, et ses copains lui demandent, mais alors, t'as vu quoi? Qu'est-ce que t'as vu avec ce prêtre français dont tout le monde parle, le curé d'Ars? Il a répondu, je suis venu voir un homme et j'ai vu Dieu. Il a vu Dieu derrière le Saint-Curé d'Ars. Lorsque les gens nous parlent, est-ce qu'ils voient Dieu? Si je suis plein de haine, d'arguties pénibles, si mon cœur est rempli d'esprit de contention, d'esprit de bagarre, d'esprit d'orgueil, comment voulez-vous que les gens qui nous entourent puissent voir le bon Dieu derrière nous? Il faut justement cette douceur. Et cette douceur est souvent malheureusement méprisée dans les milieux de la tradition parce qu'on associe de douceur à libéralisme. Et notre Seigneur Jésus-Christ dit bienheureux les doux, il y a un vrai libéral. Le libéral, notre Seigneur était un libéral dans le sens, évidemment, dans le bon sens du terme. Le mot libéral a complètement changé de sens aujourd'hui. Quand on parle d'un libéral, c'est quelqu'un qui donne les mêmes droits aux vrais et aux faux. Bien sûr, on ne peut pas accepter ça. Mais il y a un libéral dans le sens, notre Seigneur a un cœur libéral dans le sens qu'il a un cœur miséricordieux. Le doux est naturellement miséricordieux. Et c'est cette miséricorde qui attire vers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette miséricorde qui attire tous les pécheurs vers notre Seigneur Jésus-Christ. Alors voyons maintenant le sens analogique à la page 34, au paragraphe 4. Analogiquement, au doux est promis l'héritage de la terre. Dire ce corps que le Seigneur a assumé pour son habitation, je vous l'ai dit, c'est le symbole de l'humanité, notre Seigneur Jésus-Christ, le fait que notre Seigneur Jésus-Christ s'assoit pour prêcher aux gens qui l'écoutent, donc il s'assoit pour dire « Bienheureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre ». Eh bien, cette terre représente donc le paradis, je vous l'ai dit, en même temps ce corps que le Seigneur a assumé pour son habitation. Car par la douceur de notre esprit, le Christ habite en nous, et nous, une fois glorifiés, nous serons habillés de la gloire de son corps. Voilà pourquoi il dit « Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Est-ce que j'ai cette douceur? Est-ce que j'ai cette humilité dans mon cœur ?» Le pays promis aux doux pour leur possession est la chair des saints, laquelle sera changée dans le désert de l'humilité, en la bienheureuse résurrection, dotée de la grâce de l'immortalité. Car les doux posséderont la terre dans une paix parfaite, et rien ne diminuera leurs droits quand leur corruption sera revêtue de l'incorruption et le mortel d'immortalité. Il sera conduit comme une brebis à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Vous voyez, lorsque nous avons cette douceur dont parle ici l'Évangile, bienheureux ceux qui sont doux, eh bien cette douceur va entraîner la paix. Quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui est en paix. Paix avec lui-même, paix avec le bon Dieu. La paix et la joie sont les fruits du Saint-Esprit. La douceur ouvre la porte des fruits du Saint-Esprit. Et la douceur, la paix et la joie. Pour expliquer cette parabole, on peut reprendre cette page magnifique de l'Épître aux Galates de Saint Paul, au chapitre 5. Et Saint Paul va justement expliquer ce qui se passe dans une âme quand l'âme est remplie du bon Dieu. Au contraire, ce qui se passe dans une âme quand l'âme est remplie de l'orgueil moderne. Voilà ce qu'il dit. « Je le dis, dit-il, laissez-vous conduire par l'esprit, et vous ne donnerez pas satisfaction aux convoitises de la chair. Oui, par ses désirs, la chair va contre l'esprit. Par les siens, l'esprit contre la chair, et entre les deux, c'est l'opposition. Si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. » Mais si c'est l'Esprit qui vous conduit, vous n'êtes pas sous la loi. Elles sont bien connues, les œuvres de la chair. Sont la fornication, l'impureté, le libertinage, l'idolâtrie, les maléfices, les inimitiés, la discorde, l'envie, les emportements, les cabales, les dissensions, les factions, les jalousies, les beuveries, les orgies et autres choses semblables. Et je vous en préviens, comme déjà je vous en ai prévenu, ceux qui font de pareilles choses ne posséderont pas le royaume des cieux. Ça, c'est le monde. Et ensuite, il parle de ceux qui, justement, cherchent la véritable douceur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, ce que produit l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la longanimité, la mansuétude, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de pareilles choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié leur chair avec ses passions et ses convoitises. Mais si nous vivons par l'esprit, que notre conduite aussi soit inspirée par l'esprit. N'ayant pas de vaine gloire entre nous, pas de provocation entre nous, pas de jalousie. Et donc cette douceur, ce n'est pas simplement une douceur extérieure, ce n'est pas la mièvrerie mondaine, pas du tout, c'est la douceur du cœur. La douceur, la véritable douceur, la béatitude de la douceur, bienheureux ceux qui sont doux, se traduit tout de suite par deux signes, à savoir la paix et la joie. La paix et la joie. Les deux premiers fruits du Saint-Esprit, reprenez ce texte de Saint Paul aux Galates, chapitre 5 que je viens de vous lire. La paix et la joie découlent directement de la charité, c'est les trois premiers fruits dont parle Saint Paul. La charité, la paix et la joie. Donc si j'ai notre Seigneur Jésus-Christ en moi, j'aurai cette douceur et cette douceur entraînera cette paix, cette joie, cette lumière et l'attachement, l'attraction vers le beau. J'insiste beaucoup sur ces choses-là quand je prêche les exercices Saint-Ignace, surtout quand j'explique les règles du discernement des esprits. La façon de distinguer l'esprit de Dieu et l'esprit du monde, c'est que l'esprit de Dieu entraîne la paix, la joie, la lumière et l'attraction vers le beau, vers le vrai. Alors qu'au contraire, l'esprit du monde, l'esprit du démon, l'esprit de la révolte du démon contre Dieu, c'est un esprit qui est caractérisé par un certain nombre de signes, entre autres par la tristesse, par la confusion, par l'obscurité et par l'attraction vers le laid, vers le faux. Donc, au doux est promis l'héritage de la terre, c'est-à-dire ce corps que le Seigneur a assumé pour son habitation, car par la douceur de notre esprit, le Christ habite en nous, et nous, une fois glorifiés, nous serons habillés de la gloire de son corps, et tout le bénéfice de la Sainte Communion. Le pays promis au doux, pour la procession la chair des saints. Donc cette terre, c'est le paradis, la chair des saints, laquelle sera changée dans le désert de l'humilité en la bienheureuse résurrection, dotée de la grâce et de l'immortalité. Quand les doux posséderont la terre dans une paix parfaite, rien ne diminuera leurs droits. Et quand la corruption sera revêtue de l'incorruption, le mortel d'immortalité, il sera conduit comme une brebis à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le fond. Voilà pourquoi on dit que notre Seigneur Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Que l'agneau représente la douceur, justement, représente cette paix, cette joie que notre Seigneur Jésus-Christ veut voir sur nos épaules. Troisième béatitude. Première béatitude, bienheureux les pauvres. Deuxième, les pauvres en esprit. Deuxième béatitude, bienheureux ceux qui sont doux. Troisième béatitude, bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Donc, ce que disent les pères, est-ce que vous avez acquis la pauvreté? C'est la première béatitude, pauvreté d'esprit. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux. Quand vous avez acquis la pauvreté d'esprit et de douceur, la deuxième béatitude. Donc, il faut lire ça comme cela. Premier paragraphe. Du chapitre 5, verset 5, lorsque vous aurez acquis la pauvreté, l'esprit de pauvreté et la douceur de la béatitude de la douceur, la deuxième, bienheureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Souvenez-vous alors que vous êtes pécheurs et pleurez vos péchés. C'est la troisième des béatitudes. Donc, bienheureux ceux qui pleurent, dans l'esprit des pères, c'est bienheureux ceux qui pleurent leurs péchés. Malheur à celui qui a le cœur sec. Malheur à celui qui n'est pas capable, qui n'est plus capable de pleurer ses péchés. C'est ça qu'on dit qu'un des fruits du Saint-Esprit, un des dons du Saint-Esprit que le bon Dieu donne à ceux qui l'aiment, c'est le don des pleurs. Le don des pleurs. C'est beau parfois de voir en retraite certaines personnes qui ne sont parfois pas confessées depuis 20 ou 30 ans, qui reçoivent ce don de larmes, parce que d'un seul coup, ils réalisent le degré d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour eux. Et en même temps, ils réalisent évidemment la contrepartie, j'ai perdu le sens de ma phrase. Excuse-moi, j'ai une distraction, je ne sais plus où j'en suis. Bon. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pauvreté d'esprit entraîne la douceur. Et si j'ai la douceur, la troisième béatitude va arriver pour moi, c'est-à-dire je vais commencer à pleurer mes péchés. Lorsque vous aurez acquis la pauvreté d'esprit et la douceur, disent les pères de l'Église, et lorsque j'aurai acquis la pauvreté d'esprit de la première béatitude et la douceur de la deuxième béatitude, souvenez-vous que vous êtes pécheurs et pleurez vos péchés, c'est la troisième béatitude. Donc cette troisième béatitude est la conséquence des deux premières. Bienheureux les pauvres en esprit, plus bienheureux ceux qui sont doux, égale bienheureux ceux qui pleurent. Si j'ai la pauvreté d'esprit, si j'ai la douceur, je vais commencer à pleurer mes péchés. Et voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on voit très bien parfois, on a parfois aux exercices Saint-Ignace des gens qui ne sont pas confessés depuis très longtemps, qui retrouvent la foi, qui retrouvent la paix intérieure par une bonne confession générale et qui ont le don des pleurs, c'est très beau. Il y a véritablement le don des pleurs, ils commencent à pleurer leurs péchés, et pleurer leurs péchés non pas par découragement, mais pleurer ses péchés par amour pour le bon Dieu. Il est juste en effet que la troisième bénédiction soit pour celui qui pleure ses péchés, disent les pères, puisque c'est la Trinité qui les pardonne. Les morts qu'il faut pleurer ne sont pas ceux qui ont payé leur tribut, le tribut à la commune, loi de la nature, mais ceux qui sont comme ensevelis dans leurs péchés et dans leurs vices. C'est-à-dire l'âme qui s'est coupée du péché et coupée des vices, va pouvoir s'élever vers le bon Dieu, chose qu'elle ne peut pas faire tant qu'elle a les poches pleines de cet orgueil qui empêche l'âme de s'élever vers le bon Dieu. Bienheureux ceux qui pleurent, ça entraîne une certaine tristesse, mais il y a plusieurs tristesses. Il y a une tristesse qui n'est pas de Dieu, une tristesse qui est de Dieu. La tristesse qui n'est pas de Dieu, elle amène très souvent au découragement, au péché contre l'espérance. Au contraire, la tristesse qui est de Dieu amène à la joie de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Bienheureux ceux qui pleurent, ça ne supprime pas le fruit du Saint-Esprit qui est la joie. Je pleure mes péchés parce que je pleure mes péchés, parce que je sais que notre Seigneur Jésus-Christ m'a pardonné, je sais que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour me sauver. Cela doit mettre dans mon cœur une joie extraordinaire. Et donc, il faut comprendre le pourquoi de ces béatitudes. pour ça que les pères disent, ces morts qu'il faut ici pleurer ne sont pas ceux qui sont morts naturellement, mais ceux qui sont comme ensevelis dans leurs péchés et dans leurs vices et qui changent de vie. Oui. Donc la confession, surtout une bonne confession générale de retraite par exemple, va littéralement faire ressusciter les gens. Les gens étaient dans le malheur, dans l'esprit du monde, ils quittent l'esprit du monde pour se rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, les pères font remarquer que par ce deuil dont parle notre Seigneur, on peut entendre deux sortes de tristesse, ayant pour cause l'une les misères de ce monde, l'autre les désirs du ciel. On peut pleurer comme un damné ou on peut pleurer comme un élu. Je pleure comme un damné si je me décourage totalement. Je pleure comme un élu si je pleure mes péchés, et pleurant mes péchés, je me rapproche du bon Dieu, parce que le bon Dieu rentre immédiatement dans une âme pleine de commisération, pleine d'humilité. Rappelez-vous la parabole du pharisien et du publicain à l'entrée de la chapelle, à l'entrée du temple. Le pharisien qui est plein de lui-même et qui dit « Moi j'ai fait ça, je suis un type bien. » Il n'est pas pardonné. Par contre, le publicain qui est à la porte de l'église, qui n'a même pas monté les yeux vers le ciel, vers l'équivalent du tabernacle, eh bien, il va être pardonné. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, pardonnez-moi mon père, je suis un misérable, j'arrive pas à faire les choses que je dois faire, j'ai mal fait ça, mais mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur. Celui-là sera sanctifié, pas le premier. Il y a des phrases ici magnifiques des pères de l'Église. Cette tristesse n'est propre qu'à celui qui a l'esprit de pauvreté, de douceur et qui n'aime pas le monde. Qui n'aimant pas le monde, reconnaît sa misère et par cette connaissance s'élève jusqu'au désir du ciel. C'est avec raison que la consolation est promise à ceux qui pleurent. Et il est juste que la joie de l'autre vie compense la tristesse et les larmes de la vie présente. Attendez, j'ai perdu ma phrase. La récompense de celui qui pleure est plus grande que celle qui est donnée aux pauvres d'esprit et à ceux qui sont doux. Encore une fois, il y a un lien entre ces deux béatitudes. Donc, bienheureux ceux qui sont les pauvres en esprit, qui ont l'humilité, parce qu'ils auront la deuxième béatitude, bien sûr, bienheureux ceux qui sont doux, et ceux qui ont la deuxième béatitude vont commencer à pleurer leurs péchés. Vous pleurez ces péchés, qu'est-ce qu'il faut ? Et il faut justement être passé par la pauvreté d'esprit, il faut accepter la douceur de notre Seigneur Jésus-Christ qui meurt sur la croix. Et cette douceur attire, c'est ce qui manque, je vous l'ai déjà dit souvent, c'est ce qui manque dans les milieux de la tradition, cette espèce d'agressivité, de jugement téméraire, on juge de tout et de tout parce qu'on se prend pour le maître du monde. Non, ce n'est pas l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. L'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'esprit de la pauvreté en esprit, c'est l'esprit de la douceur. C'est l'esprit de ceux qui pleurent et qui seront consolés. Par ce deuil, disent les pères, on peut encore entendre deux sortes de tristesse, ayant pour cause l'une les misères de ce monde, l'autre le désir du ciel. On est triste parce que notre cœur est enseveli sous les choses mondaines. Alors, j'ai du mal à faire ce que j'ai à faire parce que je suis attiré constamment vers ce monde moderne. Il y a une tristesse, si vous voulez, de ne pas être encore au ciel. Si on regarde le ciel, on sait qu'on est attendu là-haut par notre Seigneur Jésus-Christ. On manque qu'une seule chose, c'est à mourir pour aller au ciel, mais ce n'est pas possible actuellement, parce qu'on est dans cette vallée de larmes et qu'il va falloir rester dans cette vallée de larmes pendant un certain nombre d'années. Parce que disent les pères, cette tristesse n'est propre qu'à celui qui a l'esprit de pauvreté et de douceur. Et qui, n'aimant pas le monde, reconnaît sa misère et par cette connaissance s'élève jusqu'aux oies du ciel. C'est avec raison que la consolation est promise à ceux qui pleurent, et il est juste que la joie de l'autre vie récompense la tristesse et les larmes de la vie présente. Or, la récompense de celui qui pleure est plus grande que celle qui est donnée aux pauvres d'esprit et à ceux qui sont doux. Car il vaut mieux se réjouir dans le royaume des cieux que de l'avoir et de le posséder simplement. Que les choses en effet nous avons, que nous possédons au milieu de la douleur. Donc c'est cette conviction justement qui a amené les martyrs jusqu'au pied de l'échafaud. Hein. Pour être consolés par le royaume des cieux, ils donnent leur corps pour être consolés par le royaume des cieux. Donc ils acceptent tous les pleurs ici-bas, qui sont des moyens de purification pour préparer notre âme à passer devant le bon Dieu. En bas de la page 34, il y a une belle citation là, de Saint Macaire. Elle est splendide. « Pleurons, mes frères, laissons nos yeux noyer de larmes plutôt que d'aller avec nos larmes dans le lieu où brûlera notre chair. Nous pleurons pour un jour rire toujours. Nous répandrons des mares de contrition pour trouver en notre Seigneur Jésus-Christ une fontaine. Nous sommes vêtus d'un rude drap pour porter une splendide robe blanche. Nos larmes ont été notre nourriture jour et nuit, mais nous serons un jour nourris avec le pain des anges. En chantant, goûtez et voyez comme le Seigneur est bon et doux. » Et donc, on voit un petit peu maintenant comment s'arc-boutent, si vous voulez, les différentes pièces du puzzle. Donc, la première pièce, c'est la bienheureux les pauvres, la pauvreté d'esprit. Deuxième pièce, c'est la douceur. Troisième pièce, bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Alors attention, cette consolation ne nous dispense pas de porter la croix, attention. Hein. La consolation, c'est une consolation justement qui est figée sur la croix. C'est la croix qui donne la consolation, c'est droit, la croix qui donne dès ici-bas une participation à la vie éternelle. Voyons la quatrième béatitude. Après, bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux les doux. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. La quatrième béatitude, pardon. En bas de la page 34. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alors voyons un petit peu ce que représente ce rassasiement. Et bien, ce rassasiement représente la science de Dieu. Je suis rassasié parce que j'ai la science de Dieu en moi. Tout bien que les hommes ne font point par l'amour du bien lui-même, n'a point de valeur aux yeux de Dieu. On a faim de la justice lorsqu'on désire vivre selon les règles de la justice divine. On a soif de la justice lorsqu'on désire acquérir la science de Dieu. Ils seront rassasiés dans la vie présente de cette nourriture dont le Seigneur a dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, qui est la justice. » Et cette eau dont il est dit qu'elle deviendra en celui qui l'aura bu une source d'eau qui réagit, qui rejaillit jusque dans la vie éternelle. Donc nous devons avoir faim et soif de justice et de l'augmentation en nous de toutes les vertus, car aimer Dieu n'est rien d'autre que d'aimer la justice et de remplir à satiété nos âmes de vertu. Oui, mais bien, chers frères, comme il faut relire ces béatitudes. Justement, le chapitre des béatitudes est un des plus beaux chapitres de l'Écriture sainte. Donc, bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et Dieu sait si aujourd'hui on a faim et soif de la justice, on voit que cette justice est bafouée partout autour de nous dans le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Porter plainte contre ces gens? En cours de justice, bien sûr que non, on perd son temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se consoler justement avec toutes ces manifestations de la miséricorde infinie du bon Dieu. Pourquoi est-ce que je vais être rassasié? Parce que j'ai faim et soif de la justice. Et étant rassasié, je vais trouver la miséricorde divine. Et c'est pour cela que la béatitude qui suit, c'est la béatitude sur la miséricorde. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront eux-mêmes miséricorde. Donc, parce que j'ai la pauvreté d'esprit, j'ai la douceur. Si j'ai pauvreté d'esprit et douceur, je vais commencer à pleurer mes péchés. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Puis bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront eux-mêmes miséricorde. Page 35. Donc, c'est là. C'est la 4, 1, 2. C'est la cinquième béatitude. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront eux-mêmes miséricorde. Là, cette phrase magnifique des pères. La justice sans la miséricorde n'est que cruauté. La miséricorde sans justice n'est que faiblesse. Donc, est-ce que j'ai cet esprit miséricordieux? Encore une fois, comme nous voyons malheureusement dans le cœur de bien des sédévacantistes, beaucoup trop fréquemment, une espèce de dureté, une espèce d'orgueil invraisemblable. l'orgueil des gens qui se croient justes, il n'y a plus cette miséricorde. Alors qu'au contraire, la miséricorde s'applique à ceux qui ont l'humilité. Si j'ai l'humilité, j'aurai la miséricorde. Si j'ai l'orgueil, j'aurai plus de miséricorde. La miséricorde ne sera pas en moi. Et une âme est attirée par un cœur miséricordieux. Le cœur miséricordieux, c'est le cœur de l'enfant prodigue. C'est le cœur, je veux dire, du père de l'enfant prodigue qui voit son fils prodigue qui revient, qui se met à genoux devant lui, qui lui dit « Père, pardonnez-moi parce que j'ai péché contre le ciel et contre vous. Prenez-moi à la maison comme le dernier de vos serviteurs. » Et qu'est-ce que fait le père? Il oublie tout, il embrasse son fils, il lui remet la autre famille, il lui remet la robe nuptiale, la robe de la famille sur le dos, il organise un grand banquet parce que son fils était perdu et que son fils s'est retrouvé. C'est ça la miséricorde. Relisez toutes les paraboles de la miséricorde. L'enfant prodigue, bien sûr, mais aussi le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ ouvert sur la croix. C'est la parabole du bon pasteur. Bienheureux les miséricordieux. Pourquoi bienheureux les miséricordieux? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est la miséricorde incarnée. Notre Seigneur Jésus-Christ, par nature même, ne veut qu'une seule chose, utiliser sa miséricorde. Mais on l'oblige, malheureusement, à utiliser la justice. Tant qu'il y a la vie ici-bas, tant qu'on est vivant ici-bas, on a la miséricorde parce qu'on est dans le temps. Tant qu'on est passé, qu'on est sorti du temps, on est passé dans l'éternité, c'est fini, terminé. La miséricorde ne peut plus s'appliquer. Parce qu'on ne peut plus sortir du péché une fois qu'on est mort dans le péché. D'où cette béatitude, bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront eux-mêmes miséricorde. Voilà ce que disent les pères. La justice et la miséricorde doivent être tellement unies ensemble qu'elles se tempèrent mutuellement, l'une par l'autre. La justice sans la miséricorde n'est que cruauté, la miséricorde sans justice n'est que faiblesse. C'est pour cela que le Sauveur fait venir la miséricorde après la justice, en disant « Bienheureux les miséricordieux ». Donc juste avant, il avait dit « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice », et maintenant il dit « Bienheureux les miséricordieux ». Donc il fait suivre la justice immédiatement de la miséricorde, tempérant la justice par la miséricorde. Bienheureux les miséricordieux. Le mot miséricorde veut dire parler au cœur des malheureux, parce que l'homme miséricordieux regarde comme sienne la misère d'autrui et s'en inflige comme si elle lui était personnelle. Vous voyez, mais bien cher frère, comme il faut justement utiliser et parler de cette miséricorde. Vraiment très très souvent, il faut en parler aux pécheurs repentants, il faut en parler à tous ceux qui se découragent. Si on parle de la miséricorde, alors on comprendra davantage la justice du bon Dieu. Mais pas comprendre la justice du bon Dieu sans parler de la miséricorde. Parce que si on parle de la justice sans parler de miséricorde, on pousse les gens dans le découragement le plus complet. Voilà, je vais arrêter là. Nous reprendrons la semaine prochaine, si Dieu veut, donc la suite de ces béatitudes. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, bienheureux les pacifiques, bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et on terminait par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.